RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, toujours en partenariat avec les Scouts et Guides de France. On s'est intéressé dans un premier temps à l'éco-anxiété. Je vous propose jusqu'à 11h d'ouvrir un petit peu le sujet et parler plus généralement du lien avec la nature des scouts. Et vous êtes toujours les bienvenus d'ailleurs en direct avec vos témoignages. Si vous êtes scout ou vous l'avez été, même si on reste scout toute la vie, parlez-nous du lien que vous avez avec la nature. Quelles actions avez-vous pu réaliser? Que vous a apporté le scoutisme en tant que tel sur cette question? 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mardis, on parlera bien sûr écologie avec notre chroniqueur Julien Deséchos du magazine Sans Transition. Il nous parlera de l'écologie politique qui a reculé dans les urnes au lendemain des élections européennes. Il nous parlera justement d'une action écologique assez remarquable, de la fabrique des transitions qui accompagne les collectivités dans leur démarche de transition écologique. Ce sera à 10h50. En attendant, pour nous accompagner dans cette émission, trois invités. Je commence avec vous, Louis Ballet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio. Vous avez 29 ans, je me permets de donner votre âge. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vous avez co-dirigé un camp nature, organisé par les Scouts et Guides de France. Un camp nature-environnement de protection des feux de forêt. C'était dans un quartier de Marseille, le 9e arrondissement, qui s'appelle Lumini. Louis, vous avez peut-être entendu un bout de la première partie de cette émission qui était consacrée à l'éco-anxiété. Vous, peut-être un mot sur cette éco-anxiété. Est-ce qu'au scout, on prend le sujet à bras-le-corps?
Alors, d'une part, oui, évidemment, comme n'importe qui dans la société, on essaye d'avoir des actions qui atténuent en tout cas cette éco-anxiété. Chez les scouts, on a l'avantage de vivre dans la nature. En quoi c'est un avantage quand on parle d'éco-anxiété? Parce que ça permet d'une part de la comprendre, mais d'autant plus aussi de l'apprécier et de faire corps avec elle. Donc oui, en tout cas, en tant que scout, on essaye d'atténuer cette éco-anxiété. Ouais. On essaye aussi de mener des actions directement en lien avec l'écologie, avec la préservation de la nature.
Vous êtes scout depuis combien de temps, Louis?
Oula, question qui fâche, ça va faire 22 ans.
Ah oui, donc vous avez commencé,
très
jeune.
Petit, exactement.
Ouais. Oui. Et ça ne vous a jamais quitté?
Jamais, pas une seule minute.
Bon, bah c'est très bien, vous allez nous parler de votre engagement dans cette émission. Je vous présente Louis, Catherine Fonnet qui nous a rejoint. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bienvenue également à vous dans cette émission.
Beaucoup.
Merci à l'équipe de Strasbourg qui vous accueille en studio. Je vais pas donner votre âge. Je vous en prie.
Je préférerais.
Mais en tout cas, ça fait très longtemps que vous êtes engagé dans le scoutisme. Est-ce qu'on reste scout à vie?
Oui. Oui, oui, très franchement. Moi, j'ai commencé avec les Jeannettes. Alors, je ne dirais pas en quelle année, mais ça fait un sacré bail. Et j'ai fait des pauses, mais sans quitter totalement, en continuant à aider, etc. Voilà, on peut être scout sans porter la chemise et sans être adhérent. On peut continuer à s'investir pour les autres.
La place de l'écologie dans votre vie, est-ce qu'elle est arrivée très jeune quand vous avez commencé le scoutisme, ou alors c'est arrivé un petit peu plus tard?
C'est arrivé même plus tôt, parce que justement en Alsace, il existe ce qu'on appelle le club vosgien, et donc c'est une association très très ancienne. Ça doit être une des plus anciennes associations en Alsace qui veille sur la nature, qui balise les sentiers, etc., qui organise des espèces de grands jeux de pistes pour adultes. Dans toutes les forêts, il y a des sentiers bien balisés et tout, c'est super. Et mes parents marchaient aussi, donc ils m'ont emmené. Même déjà porté dans le sac à dos. Voilà, donc j'ai toujours été très proche de la nature.
Merci beaucoup, Catherine, de nous accompagner. Je vous présente, alors vous la connaissez, Muriel Holzhammer. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également à vous dans cette émission. Vous êtes cheftaine pionnier Caravelle. Vous êtes également engagé avec les jeunes sur la protection donc des feux en Alsace. On va en parler ça d'ailleurs dans cette émission. Alors pareil, je ne vais pas révéler votre âge, ça ne se fait pas. Par contre, je sais que ça fait également de très nombreuses années que vous êtes engagé dans le scoutisme.
Pas tout à fait. Ça fait 5 ans que je le suis de façon active sur les unités. J'étais Jeannette il y a longtemps, mais entre-temps, effectivement, j'étais plus dans le mouvement. Et c'est en y inscrivant mon fils que je me suis retrouvée après au poste de chef.
Bon. Et c'est votre fils qui vous a quoi ? Qui vous a convaincu ? Qui vous a inspiré ?
En fait, c'était un petit peu une proposition inattendue, puisqu'en fin d'année, les chefs qui étaient en place ont tous décidé d'arrêter. Et c'était soit les parents donnaient un coup de main, s'investissaient, soit le groupe fermait. Donc, on a été quand même plusieurs parents à se dire, ah bah tiens, c'est l'occasion d'y retourner, et c'est ce qu'on a fait.
Alors, si vous êtes avec nous tous les trois ce matin, donc c'est en partenariat avec les Scouts et Guides de France, et c'est aussi parce que vous êtes engagé pour la protection des feux de forêt. Il va falloir m'expliquer, Catherine Fonnet, quel est le lien entre les scouts et les feux de forêt.
Eh bien, il y a 2 ans, en 2022, il y a eu beaucoup de feux de forêt qui ont éclaté dans le Bas-Rhin, ce qui est nouveau, puisque c'est vrai, c'est dû au changement climatique essentiellement. Autrefois, nos forêts étaient relativement privilégiées. La préfète, Madame Josiane Chevalier, a décidé de créer un réseau de bénévoles qui s'appelle les Sentinelles Feux de Forêt, qui ont pour mission de surveiller, de détecter, mais aussi d'aller vers le public et puis de les avertir, de les informer, de les sensibiliser aux risques. Elle a confié la gestion de ce réseau Sentinelle à l'UITT. L'UITT, c'est une association de pompiers. C'est l'unité d'intervention tout-terrain du Bas-Rhin. Enfin, il y en a partout, mais là, c'est ceux du Bas-Rhin. Et quand on a appris ça par le biais de la presse, on s'est dit, ils cherchent des bénévoles, on en est quoi. D'autant que je connaissais Nature et Environnement qui fonctionne depuis 40 ans dans le Midi, en association avec les pompiers de Marseille, pour avoir fait participer mes enfants ou avoir un peu suivi à l'époque où j'étais RG. Donc je me suis dit, ils le font, on peut le faire. Voilà, la seule chose qui change, c'est le fait que ça s'adresse maintenant à une région jusque-là épargnée. Donc voilà, on est bénévole du réseau Sentinelle Feux de Forêt.
Louis Ballet, vous, qu'est-ce que vous avez pu observer ? Parce que voilà, c'était il y a quelques années, vous, que vous avez vécu un camp où, dans lequel vraiment il y avait une vraie préoccupation autour des feux de forêt.
C'est ça. Donc effectivement, on parlait du camp Nature Environnement. Donc moi, je dirige effectivement le dit camp Nature Environnement sur le secteur de Lumigny à Marseille. Alors nous effectivement, ça fait maintenant 40 ans qu'on est mis en place et qu'on appartient au plan DFCI. DFCI qui veut dire Défense de Forêt contre les Incendies, qui est en fait une organisée par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et qui s'oriente en 3 axes, d'une part met en place des infrastructures qui permettent la surveillance des feux de forêt, mais aussi l'accessibilité du massif des Calanques, parce qu'on agit principalement, voire exclusivement dans le massif des Calanques, mais aussi des voies d'accès à l'eau. Donc avec nos partenaires opérationnels qui sont effectivement les marins-pompiers de Marseille, l'Office national des forêts, les Calanques, la ville de Marseille. Mais nous, on intervient plutôt dans le deuxième axe, qui est un dispositif estival de surveillance et d'alerte, en tout cas des incendies et en lien avec les marins-pompiers. Donc, on prend le relais sur tout ce qui va être dans ce qu'on appelle les vigies pour prévenir et en tout cas alerter les feux de forêt naissants pour éviter qu'ils se propagent.
Vous, Muriel Holzhammer, vous avez travaillé avec Catherine Fonnet, vous avez collaboré ensemble justement sur toutes ces questions dans le cadre de votre fonction de cheftaine pionnier Caravelle d'ailleurs. Vous pourriez nous expliquer vraiment ce que c'est ?
Par rapport aux feux de forêt ?
Oui. Et puis ce rôle de pionnier Caravelle.
Donc, pionnier Caravelle, ça correspond à une tranche d'âge chez les Scouts et Guides de France. Donc, ce sont les 14-17 ans. Donc c'est quand même déjà un âge où effectivement ils ont beaucoup plus envie de faire des choses pratiques, de s'investir et de donner de leur temps et de leur personne. Et donc tous les ans pour les camps, il y a des options qui sont proposées justement pour cette tranche d'âge qui s'appelle les points rouges. Dans les points rouges, il y a deux traditions. Il y avait nature et environnement. Et depuis l'année dernière, donc maintenant, il y a les feux de forêt en Alsace. Et c'est vrai que l'occasion s'est présentée. On s'est dit pourquoi aller à l'autre bout de la France alors qu'il y a possibilité de s'investir et de faire des choses localement. Donc c'est une proposition qui a été faite aux jeunes.
Oui.
Et ils sont tout de suite partis. Ils ont été enchantés par le projet. Ils sont investis sur l'année pour pouvoir y participer.
Et donc, les feux de forêt qui sont arrivés également dans les préoccupations.
Oui, c'est en fait, ils cherchaient quelque chose où ils pouvaient vraiment s'investir pour l'environnement avec un effet immédiat où ils voyaient ce qu'ils faisaient. Donc c'est vrai que les feux de forêt, c'est quelque chose qu'ils ont entendu l'année dernière aussi, vu qu'il y a eu quand même quelques départs de feux de forêt en Alsace. Et ils se sont dit, pourquoi pas, alors autant tout de suite s'investir là-dedans et au moins... On peut faire quelque chose de concret et agir tout de suite.
Oui, Catherine Founet, vous confirmez, ça, c'est tellement impressionnant que ça parle très vite.
Oui, tout à fait.
Oui.
Surtout avec la médiatisation des feux de forêt. Et puis c'est vrai que les feux, c'est voilà, enfin ça marque l'imaginaire de tout le monde, même ceux qui ne sont pas scouts, même ceux qui vivent en ville. Un feu de forêt, ça impressionne. Donc, moi, effectivement, je pense que les jeunes ont envie de s'investir. Et quand on leur propose quelque chose de concret, ils foncent. Et c'est vrai que c'est concret comme projet.
Alors, ce lien entre les scouts et guides de France et puis même l'Office national des forêts, les pompiers, il n'est pas récent. Hein, ça fait quand même de nombreuses années. Louis Ballet, avant que vous étiez né, même tous les deux d'ailleurs, ça existait déjà puisque c'est dans les années 80 qu'il y a une forme de partenariat qui avait commencé à exister.
Exactement. Nous, en fait, donc Nature Environnement existe depuis 1979. Ça fait suite justement à un incendie dévastateur. Et les scouts et guides de France ont décidé de mener une action de reboisement suite à cet incendie. Et c'est en fait effectivement depuis 1981 qu'on est ancré dans le processus DFCI. Et donc il existe ce partenariat avec l'Office national des forêts, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, la préfecture du Bouches-du-Rhône et tout ça.
Et puis les services qui sont chargés de la protection des massifs forestiers méditerranéens. Des Calanques également, ça fait partie du jeu.
Le parc national des Calanques.
Ouais. Vous, sur les incendies, pour vraiment essayer... Alors, le but, ce n'est pas de devenir pompier, c'est en tout cas de garder l'œil ouvert. Et vous nous expliquerez un petit peu justement comment ça fonctionne. Mais ça nécessite une vraie formation.
Bien sûr. Donc effectivement, nous, on est un point rouge aussi, comme on l'expliquait très bien juste avant. Donc en fait, on accueille principalement des pionniers caravelles, donc des 14-17,
oui.
Mais aussi des branchaînés. Donc on a aussi les compagnons, donc au-delà de 17 ans. On ne s'improvise pas, effectivement, surveillant en tout cas du massif des Calanques, n'importe comment. Donc nos jeunes suivent une formation en amont, mais aussi une formation sur place et une sorte de formation continue aussi tout au long du camp et de leur présence sur l'UMINI.
Catherine Founet, du côté de l'Alsace, comment ça fonctionne? Quels sont les liens peut-être avec les pompiers, avec l'Office national des forêts?
Dans notre cas, oui. C'est l'UITT, donc c'est l'UITT, l'unité d'intervention tout terrain, qui nous a proposé l'année dernière et cette année de nouveau une formation auquel les aînés du mouvement, à savoir les chefs, les responsables, etc., peuvent participer. Et ce sont les compagnons aussi, d'ailleurs, s'ils le souhaitent. L'année dernière, il y avait des compagnons qui étaient venus à la formation. Et ce sont ces personnes qui, donc, étaient fermées par l'UITT, qui, au camp, au début du camp, feront la formation des pionniers caravelles.
Une formation qui consiste en quoi?
Alors, la formation, il faut leur apprendre, justement, aux différentes missions proposées, à savoir, d'abord, sensibiliser le public qu'on va rencontrer. Pour ça, il faut savoir se présenter, mais il faut aussi savoir leur répondre. Donc, il faut connaître un petit peu la réglementation, il faut savoir parler, savoir se présenter, etc. Donc, ça, c'est une partie. Ensuite, Il faut savoir identifier les différents feux. Il faut faire la différence entre un feu de broussailles, un feu de chaume, un feu de forêt, etc. Parce que la deuxième mission, c'est effectivement de détecter. Donc, et surtout, une fois qu'on a détecté, il faut savoir alerter. Et pour alerter, il faut savoir ce qu'on va dire. Oui. Il faut savoir ce qu'on va dire aux pompiers qu'on va contacter. Il faut savoir leur dire, voilà... Il y a un petit feu de forêt. Non, voilà, ça suffit pas. Il faut vraiment être très précis. Il faut dire à quel emplacement. Donc, on va aussi leur expliquer. Enfin, on va les former à la lecture des cartes. Bon, en général, ils savent déjà quand même. Et on va leur apprendre à tracer un azimut. Enfin, tous ces renseignements qui ensuite leur serviront à alerter correctement les pompiers. Il faut aussi savoir parler au téléphone, ce que les jeunes, contrairement à ce qu'on s'imagine, savent de moins en moins faire, parler lentement dans le téléphone pour que l'autre ait le temps de prendre des notes, etc. Donc notre formation, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est un azimut ?
Ah, c'est une direction.
Oui.
Donc on prend une boussole, on voit par exemple une petite fumée qui s'élève à distance, etc. Voilà. Donc, il faut qu'on la situe, cet azimut. Il faut dire, par rapport à ma situation, la fumée, elle est à tant et tant de degrés. Et voilà. Donc, à partir de ça, les pompiers pourront tracer une ligne et faire intervenir d'autres sentinelles pour essayer de trianguler la zone de risque.
Il est un peu plus de 10h15 dans Je pense donc j'agis. Vous l'entendez ce matin, on parle des scouts et guides de France et de leur engagement pour la nature et notamment pour la protection des feux de forêt. Vous avez la parole pour en discuter avec nous. Si vous êtes scout ou si vous avez été scout, parlez-nous du lien que vous avez avec la nature. Quelles actions avez-vous pu réaliser avec les scouts et qu'est-ce que ça vous a apporté d'ailleurs vraiment sur cette question? 04 72 38 20 23 ou 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Toujours avec nos trois scouts, Louis Ballet, Catherine Fonnet et Muriel Holzhammer. Muriel, quand vous vous êtes intéressée pour la première fois avec les scouts autour de ces questions de la protection des feux de forêt, est-ce que vous avez découvert un véritable monde ?
Oui, concrètement oui, parce qu'en fait il y a quand même plein de choses qui sont en jeu. Il n'y a pas juste les scouts, il y a tout ce lien, ces relations avec les autres intervenants, même le contact avec les gens sur place. Donc c'est quelque chose qui est assez appréciable parce que les jeunes, en fait, ils vont découvrir le rôle des bénévoles, que ça soit scout ou autre civil, puisqu'il y a d'autres civils qui peuvent être bénévoles pour l'UITT, hein. Pour les sentinelles. Et donc c'est aussi des contacts avec éventuellement la gendarmerie en cas d'infraction. Ce sont les contacts avec les gens directement sur le terrain. On risque même d'avoir des étrangers puisqu'on est dans une zone où on a autant d'Allemands quasiment que de Français qui se baladent dans notre secteur. Et c'est surtout aussi le contact avec les gens sur place qui vont découvrir des scouts qui vont se promener tous les jours dans leur village et autour.
Et c'est passionnant de faire ça, de s'intéresser en tout cas à ce domaine qui est plutôt en général qu'on regarde avec un œil de curieux.
C'est quelque chose d'assez extraordinaire de se dire que nous aussi on peut être un petit maillon de la chaîne et qu'on a en fait la possibilité de faire partie de quelque chose qui a un impact et assez important, qui n'est pas négligeable, quoi. Donc oui, c'est vraiment chouette de se dire qu'on peut en faire partie.
Louis, vous êtes d'accord ?
Totalement, bien sûr, c'est un privilège. Et puis même au-delà de ça, on a aussi le privilège de le côtoyer comme personne d'autre n'a eu l'occasion de le côtoyer, donc bien sûr.
Alors, si on parle des scouts, des feux de forêt ce matin, c'est parce que malheureusement, il y en a de plus en plus en France. Actuellement, c'est peut-être pas dans toute la France que les scouts et guides de France agissent sur ces questions, parce que nature et environnement, Louis Ballet, c'est surtout proche de Marseille. pourtant, c'est un projet qui pourrait se développer ailleurs.
Alors, historiquement, effectivement, on est proche de Marseille, mais depuis quelques années, et notamment une nouveauté cette année, on est aussi déployé en Bretagne.
Pourquoi en Bretagne ?
Parce que malheureusement, les zones touchées par, et ravagées par les incendies ont tendance à évoluer plus rapidement qu'on ne le pensait. Et pourquoi en Bretagne ? Parce que c'est aussi une région qui est très boisée, donc il y avait un besoin en tout cas en Bretagne.
Catherine Fonet, vous vouliez réagir, je crois.
Oui, effectivement, je pense que il y a d'autres régions où on pourrait organiser ça, mais comme dit, ça demande pas mal de travail. moi, je vois par exemple en Alsace, nous avons une base. Alors l'année dernière, on en avait une à Wangenbourg. Cette année, justement, les Sentinelles, enfin l'UITT qui gère les Sentinelles. Nous a fait remarquer qu'il y a relativement peu de bénévoles inscrits pour surveiller le nord de l'Alsace. Donc nous, cette année, pour organiser notre base, on est remonté dans le nord et on est maintenant dans une commune qui s'appelle Lichtenberg. Donc il y aurait possibilité d'organiser des bases un petit peu partout. Mais bon, comme dit, il faut des bénévoles, il faut du matériel. Voilà. Nous, on a la chance. C'est pas comme Nature et Environnement. Ils ont des vigies qui sont des espèces de grands mâts avec des vigies, mais construites. Nous, on a la chance en Alsace d'avoir énormément de vieux châteaux forts avec des donjons qui offrent une vue absolument magnifique. Donc, l'année dernière, on était en haut du château de Wangenbourg. Cette année, on est sur le donjon du château de Lichtenberg. Il y aurait possibilité de mettre ça ailleurs. Mais, voilà, ça demande d'avoir une base, ça demande d'avoir un accueil, ça demande d'avoir des formateurs. Voilà, donc. Mais c'est vrai que d'autres régions sont concernées.
Donc, de ce qu'on comprend depuis ce que vous dites depuis le début de cette émission, Louis, Catherine et Muriel, vraiment l'objectif des scouts dans la protection des feux de forêt, c'est d'apporter un soutien aux pompiers, hein. En surveillant des zones, en surveillant des territoires, Muriel.
Oui, c'est ça. C'est vraiment, en fait, le petit plus, parce qu'ils peuvent bien sûr pas être partout. Et nous, en fait, on fait le relais, on fait l'intermédiaire, on surveille à partir d'un point et ça leur permet, en fait, de se dégager, d'être disponibles sur d'autres zones ça leur soulage aussi leur travail.
Et dans ce cas-là, Louis Ballet, on est en coordination directe avec les pompiers ?
C'est ça. En fait, nous, on est organisé, comme on expliquait juste avant, donc on a des vigies, on a aussi des patrouilles qui servent plus à la prévention et à la sensibilisation du public sur tout ce qui est incendie. Mais ces vigies sont en lien avec notre poste de coordination qui est directement sur notre base à Lumigny. Et ce poste de coordination est en lien direct, téléphonique, avec le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc en fait, si les vigies voient quelque chose, on informe d'abord le poste de coordination de Lumigny, qui lui va prendre la décision ou pas, selon la description de la fumée, selon la localisation, d'en informer les marins-pompiers.
Ça veut dire qu'il faut quand même rester plutôt immobilisé pendant plusieurs journées, ou alors on peut se déplacer tout en gardant l'œil ouvert, Louis ?
Ça va justement dépendre des missions. Ouais. Alors c'est pas sur plusieurs journées, on essaye de faire des roulements en tout cas tout au long de la journée. Maximum, les vigies et les patrouilles durent 5 heures, ce qui est déjà énorme. Et on se relaie en fait sur les 2 mois d'été. Donc on a la possibilité de... Donc nous aussi d'avoir des points de vue magnifiques sur le massif des Calanques via nos vigies, mais aussi de se déplacer librement dans le massif des Calanques selon un itinéraire précis pour sensibiliser le public sur tout ce qui est risque, mais alors pas seulement lié à l'incendie, mais aussi lié à la préservation de l'environnement, notamment à jeter les déchets et tout ça.
Ouais. Catherine Fonet, on n'est pas dans le camp scout où voilà, on se retrouve entre scouts pendant une semaine ou deux et on fait quelques activités. Là, c'est quand même quelque chose de très utile quand on est dans une société où parfois les jeunes ont une perte de sens. Là, ça a vraiment du sens.
Oui, mais je ne dirais pas que c'est nouveau parce qu'en fin de compte, un camp, pour moi, enfin disons peut-être l'ancienne génération, effectivement, de notre temps, comme on dit si bien... On restait pas sur notre terrain non plus à faire nos activités scouts. Oui. Au contraire, on allait vers les gens, si ce n'est qu'aller à la messe, inviter les propriétaires au concours cuisine, inviter les enfants à participer aux Jeux Olympiques. On l'a toujours fait. Alors effectivement, peut-être que ces dernières années, les jeunes ont eu tendance à rester entre eux ou à uniquement rencontrer d'autres scouts. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus scout comme manière. C'est se montrer et être utile. Et ça a toujours été le but, en fin de compte, des camps scouts. De passer un bon moment, d'avoir des activités scouts, mais de faire quelque chose. On n'est pas en vacances. Enfin,
de rendre service. On est en vacances, mais... De rendre service aussi.
Voilà, exactement. Les fameuses journées BA, bah voilà, ça reprend son intérêt. Mais n'empêche que la manière dont on organise le camp. Permet quand même aux jeunes d'avoir leurs activités scouts à côté. Il y aura les installations, il y aura le fameux concours cuisine, bon, ça change de nom, il y aura les fameux Jeux Olympiques, il y aura des jeux, il y aura des veillées, etc. En fait, ils sont suffisamment nombreux, on a effectivement une vigie, on se relaye à la vigie pour effectivement ne pas avoir les yeux carrés au bout de quelques heures, mais ils sont suffisamment nombreux pour en plus avoir une vie scout.
Le concours de cuisine change de nom, vous avez dit ?
Ben je crois.
Ah bon ?
Muriel, tu peux me... Ça n'a pas changé de nom ?
On appelle ça concu pour abréger, mais c'est toujours le concours cuisine.
Ah bon ?
Ok, d'accord.
Je suis rassuré. Parce ouais, que moi, j'en avais vécu un, ça m'avait marqué pour le coup. C'était...
Est-ce que je peux me permettre
Louis, juste... Bien sûr, Louis, allez-y.
C'était juste pour dire que moi, je serais un tout petit peu moins défaitiste justement sur les jeunes de moins en moins engagés. Au contraire, on a des jeunes qui sont de plus en plus sensibles à l'écologie, à la préservation de l'environnement et il y a évidemment beaucoup d'autres enjeux sociaux et sociétaux. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'au contraire, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus engagés que ce qu'on a pu être, en tout cas, fut un temps. Et moi, le premier, j'avais plutôt tendance à faire des camps entre soi, comme on l'évoquait, dans ma jeunesse. Et oui. Maintenant, effectivement, on se rend compte que les jeunes ont envie d'agir.
Mais c'est lié à l'actualité.
Oui, je suis assez d'accord. Mais quand je disais de mon temps, je parlais du temps avant toi. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que les camps de mes enfants étaient un peu des camps où ils restaient. Encore que comme ils ont participé à Nature et Environnement, ils étaient déjà sortis.
Mais est-ce que c'est pas...
Mais c'est vrai que là, maintenant, les jeunes cherchent à être utiles.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est en lien aussi avec notre société. On voit quand même beaucoup totalement. De jeunes dans la rue quand il s'agit d'aller manifester. Oui, c'est ça.
On ne peut plus nier la réalité. Donc effectivement, on a des jeunes qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'être utiles, qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice et donc effectivement qui agissent. Ils ont, pour ceux dont on parle, ils ont la chance d'avoir le scoutisme justement comme moyen d'action et ils en profitent beaucoup et c'est très beau à voir.
Ouais, vous confirmez, Muriel Holzhammer, avec les jeunes que vous rencontrez, il y a une vraie volonté d'agir, de ne plus penser, c'est je pense donc j'agis.
Oui, c'est vraiment en fait, c'est cette demande d'action. Ils entendent plein de choses, donc ils ont vraiment de plus en plus cette envie de dire bah, moi aussi je veux faire et d'agir maintenant. Donc effectivement, c'est là que les scouts et guides de France répondent bien à leurs demandes. C'est qu'il y a plein de choses qui sont mises en place et grâce aux scouts, ben, on peut agir. On peut agir pendant les rencontres, on peut agir même en dehors du scoutisme. Et bien sûr, pendant les camps encore plus, surtout plus ils montent en âge, plus les camps en fait vont être axés justement sur cette participation et les services.
Allez, on va marquer une petite pause tout de suite dans cette émission. Louis, Catherine, Muriel, on se retrouve dans un instant. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous parler du scoutisme, du lien que vous avez également avec la protection de la nature. 04 72 38 20 23, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense donc j'agis, vous êtes scout, parlez-nous du lien que vous avez avec la nature, quelles actions avez-vous pu réaliser, parlez-nous également de vos enfants et vos petits-enfants, est-ce qu'ils sont engagés sur cette question et plus généralement d'ailleurs, qu'est-ce que le scoutisme vous a apporté? 04 72 38 20 23, on écoute une chanson de circonstances signée Vianney et Kenji Girac, Le Feu.
J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte.
Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Enfant de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pourquoi? Rien que pour toi.
Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne la verse, je protège les braises.
Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu. Siento, quiero que sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme.
Tierra solitaria, pensativa, yo te pensé fuerte y no entendía. ¿Por qué? Dime por qué. Toma mi corazón, toda mi canción. Cuando hará frío, ha hecho un fuego ardiente, ardiente. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne la verse, je protège les braises.
Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises.
De moi-même, et que vienne l'inverse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière, et que tombe la neige, je protège les braises. Je
Le feu, c'était Kenji Girac en duo avec Vianney pour vous accompagner en ce mardi matin. Bah tiens, la place de la musique, Louis Ballet, dans les camps scouts, est-ce que vous chantez beaucoup toujours?
Bah, j'irais même jusqu'à dire que la musique est omniprésente.
Ouais.
non, on fait que ça.
Tout type de musique, des canons.
Tout type de musique, de bien canons. Sûr, il faut ouais. aussi ça. Ah oui, de canon. Non, mais il faut aussi s'adapter à la société qui évolue et donc les musiques d'aujourd'hui. Donc bien sûr, on garde nos traditions, si je puis dire, nos musiques sempiternelles, mais on écoute aussi de la musique actuelle.
Ouais. Il y a un tube qui revient à chaque camp, une chanson qui est inévitable.
Un tube, je sais pas, mais on a des chants scouts qui sont un peu inévitables.
Ouais. Muriel Holzhammer, ça vous a fait sourire, je crois, de parler de ça.
Oui, c'est exactement ça. On a les classiques qui reviennent tout le temps. Bon, il y a entre autres le monsieur en chemise, quoi, la grande classique. Et après, ils ont des chansons, effectivement, qu'ils adorent et qui tournent en boucle. Mais c'est vrai que la musique, on l'a dès le matin, toute la journée. Elle nous accompagne, en fait, tout au long de la journée. Ça ouais. fait vraiment partie du camp.
Ça fait
des rencontres
du...
aussi.
Ouais. Et Catherine Fonnet, voilà, vous avez déjà vécu des camps comme ça, des moments fraternels entre scouts, entre guides, entre Jeannette également, il y a quelques années. Mais oui. Il se passe quelque chose à chaque fois pendant ces camps. À chaque camp, il y a quelque chose en particulier qu'on va retenir.
Oui. Oui, très franchement, oui. Ça permet de dater, en fait. C'était l'année où telle et telle fille a fait tel et tel truc, ou tel et tel machin a perdu, je sais pas quoi. Enfin, ça permet de dater. Donc oui, effectivement, c'est comme ça qu'on fabrique nos souvenirs. Hein.
Ouais. Et alors sur les feux de forêt, c'est quelque chose aussi qui est relativement, alors pas nouveau. Enfin, Louis, ça fait quelques années que vous travaillez sur cette question, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de volontaires, ou alors finalement c'est à tous les pionniers Caravelle d'aller sur le terrain et de faire ça?
Alors, en Alsace, comme dit, c'est nouveau.
C'est nouveau.
Donc
voilà. Ça, de toute façon, c'est nouveau.
Ouais. On l'a proposé l'année dernière pour la première fois. On a eu effectivement des jeunes qui venaient de Reims et de Bretagne, de Saint-Paul, j'ai oublié le nom exact, dans le Finistère. Oui, c'est effectivement, les jeunes s'inscrivent pour ce genre de projet. Comme dit, on pourrait en accueillir encore plus. Je sais que Nature et Environnement ne peut pas accueillir tous les volontaires. Nous-mêmes, on a un terrain, il n'est pas énorme. Et de toute façon, s'ils étaient tellement... plus nombreux, on ne pourrait pas les occuper. Il faut quand même que chacun se responsabilise et ait quelque chose à faire. Donc, c'est ce que je disais, si on avait d'autres bases, on pourrait accueillir plus de gens, et parce que le travail est là. En fait, quand elle a créé ce réseau Sentinelle, la préfète du Bas-Rhin, donc Madame Chevalier, a eu, je trouve, une très belle expression. Elle disait, ces bénévoles seront les yeux des pompiers. Et on peut avoir beaucoup d'yeux, ce serait pas mal, parce que franchement, il y a du boulot.
Mais on pourrait totalement imaginer une déclinaison. Voilà, ça peut être les feux de forêt, ça peut être la protection de l'eau, la protection des animaux, avec peut-être des repérages qui pourraient être faits. Louis Ballet, en fait, ce qui se fait autour des feux de forêt, c'est une très belle chose, mais peut-être que pour les scouts et guides de France, il y aurait de quoi créer de nouvelles choses encore.
Et ce serait merveilleux de pouvoir créer tout ça. Après, effectivement, la problématique qu'on soulève depuis maintenant le début de l'émission, c'est le manque de bénévoles qui se mobilisent. Et qui dit manque de bénévoles, dit aussi manque potentiellement de compétences liées aux actions qu'on aimerait mener.
Il faudrait faire quoi, d'après vous ? Il faudrait recruter plus de bénévoles, essayer de sensibiliser. Ah ben non, c'est pas une question piège, Louis. Non,
mais... si, c'est une question.
Ah bon, mais pourquoi
si on avait la réponse, bien sûr qu'on l'aurait déjà mis en place.
Oui, mais non, mais parce que parfois, ça peut être un manque de moyens, ça peut être un manque de communication, je sais pas, mais un manque de sensibilisation également.
Non, là, le manque de sensibilisation, je pense que ce n'est pas ça.
Voilà.
Je pense que justement,
on coche des cases.
Ouais, peut-être que justement. Parce que vous parliez tout à l'heure des propositions qu'on pourrait faire aux jeunes. On a parlé des points rouges tout à l'heure. Et effectivement, les points rouges me proposent une liste dingue de choses à faire. Nous, effectivement, on est les feux de forêt, mais il y a d'autres points rouges qui sont intéressants. Je sais pas, il y en a qui ont accès sur la nourriture, j'ai vu. J'avoue que j'ai un petit peu regardé les autres, mais j'ai pas passé trop de temps à regarder. Mais j'ai vu, il y en a, c'est bien consommer. Apprendre à consommer correctement quand on fait à manger, quoi. Il y en a d'autres qui sont plus centrés sur le sport. Je sais qu'il y a une base nautique aussi pour comprendre la mer, les éléments, etc. Donc il y a déjà beaucoup de propositions, et peut-être qu'on peut se poser la question. Il y a tellement de propositions, les jeunes ont tellement de propositions que c'est pas facile de faire du bénévolat chez les scouts quand en plus on est bénévole à la fac, dans son BDE, qu'en même temps on fait du sport, qu'en même temps on fait de la peinture. Enfin, j'en sais rien, mais voilà.
Muriel,
je pense que c'est...
Vous êtes d'accord, oui.
Oui, moi je vois ça encore d'un autre côté, parce que étant chef en unité. Le camp de cet été, j'ai la direction, donc il y a toute la préparation en amont, et c'est un travail qui est énorme. Pour préparer un camp de 14 jours, nous, on travaille dessus depuis le mois de janvier.
Ah oui.
Oui, non, c'est pour ça, c'est très très long. Et c'est vrai que c'est un petit peu le problème du bénévolat partout. C'est, il faut être capable et avoir la possibilité de se dégager beaucoup de temps. Pour, c'est... Après, sur les rencontres classiques, c'est moins lourd, mais c'est vrai que si vous avez, si vous portez les projets de camp et que vous accompagnez sur les camps, c'est un investissement qui demande beaucoup de temps.
Donc il n'y a pas, ce ne sont pas les idées qui manquent, c'est plutôt du temps et des bénévoles, Louis. Donc comme quoi, ma question n'était pas si difficile que ça.
Bien sûr, on va pas se mentir, le nerf de la guerre, il y a aussi l'aspect financier. Des dispositifs tels que Nature Environnement coûtent très 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 cher. On a de la chance d'avoir beaucoup de partenaires, beaucoup de subventions de la région, de la ville. Mais sans ça, on ne pourrait pas en tout cas s'autogérer, j'ai envie de dire, financièrement.
Vous, Louis, par rapport à ce que vous faites dans la vie, comme métier, peut-être comme étude encore actuellement, mais je pense que vous travaillez désormais, mais vous arrivez à dégager quand même un peu de temps pour les scouts?
Alors, j'ai la chance d'avoir un métier pour lequel j'ai été recruté, notamment parce que j'étais scout, qui est donc assez permissif, en tout cas sur le temps que je peux me dégager pour ma mission bénévole. J'enseigne en fait dans une école vétérinaire.
Ah oui.
Donc oui, j'ai cette chance. Je sais que c'est évidemment pas la chance que tout le monde a, et c'est pas la chance que j'avais aussi dans mon ancien travail. Et je comprends en tout cas que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer, notre vie, notre mission associative, notre métier, et en plus de ça une vie privée qu'on aime avoir quand même.
Il faut arriver à concilier tout ça.
C'est ça. C'est pas toujours facile.
D'où l'idée de se tourner peut-être vers des personnes, alors je suis désolé, Muriel et Catherine n'y voyaient aucune offense, mais un peu plus âgées, mais qui peut-être ont plus de temps à dégager, c'est ça? C'est aussi l'idée, Catherine?
Oui, enfin bon, le temps, effectivement, je fais partie encore des rares femmes au foyer.
Oui.
Bon, maintenant, je serai à l'âge de la retraite. Hein, donc. Mais j'ai toujours eu la chance... d'être très libre pour le bénévolat. Je disais souvent j'étais bénévole professionnel parce que je faisais que ça. Mais c'est vrai que je parle maintenant pas non plus de l'avantage du temps, je parle aussi de l'avantage de l'expérience. C'est vrai que les personnes plus âgées, ça fait un peu bizarre.
Oui, je suis désolée, je cherchais les mots.
C'est vrai qu'on a une expérience qu'on peut effectivement peut-être apporter, ou des relations aussi. Donc, autant en profiter et en faire profiter tout le monde.
Muriel ?
Ben, c'est vraiment ça, quoi. C'est vrai qu'on a quand même déjà vécu pas mal de choses.
C'est
on
ça.
A une vision plus globale de la gestion du quotidien, déjà du fait souvent d'avoir une famille nous-mêmes. Et c'est un choix. C'est vrai que, pareil, hein, comme Catherine, moi, le bénévolat, c'est mon hobby. Bon, à part, je travaille quand même un petit peu en tant que... je fais de la formation pour adultes, mais j'ai suffisamment de temps libre, donc c'est pas un temps plein, c'est quand je suis dispo, et ça me permet, en fait, des fois, de me libérer aussi et d'être disponible pour les scouts. Donc c'est un choix. Quelque part, c'est aussi un peu un choix de vie. C'est les scouts, c'est la vie, ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc il y a un moment où on peut aussi décider si c'est possible de lui laisser une part plus importante. Mais ça, c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup de gens, mais c'est un choix que j'ai fait.
On est sorti un petit peu de notre sujet, la protection des feux de forêt, mais c'est pas grave puisque ça reste quand même aussi intéressant d'entrer un peu dans les coulisses de l'organisation des scouts et guides de France pour essayer de voir où est cette étincelle que vous avez tous les trois ce matin. Louis, Catherine, Muriel, vous êtes engagés avec des jeunes. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un agent transmetteur, de transmission vraiment de ce que vous avez appris sur le scoutisme? Je commence avec vous, Catherine.
Bah, j'espère. Alors, je dis pas des fois, ça coince un peu. C'est-à-dire que il y a une citation, mais bon, je vais la citer n'importe comment. Je me rappelle plus très bien, qui dit que l'expérience, c'est une lanterne qu'on promène derrière soi. Et que personne ne suit. C'est vrai que des fois, on a l'impression de donner des, de donner son expérience et puis personne ne suit. Mais bon, là, ça, c'est le côté un peu défaitiste. Rien que pour être plus proche, je vois mes enfants, ils ont suivi. Ils y sont encore dans le scoutisme. Donc, j'ai l'impression quand même d'avoir servi effectivement de courroie de transmission.
Ouais. C'est une belle citation de Confucius. Alors, c'était presque ça. L'expérience est une lanterne attachée dans l'autre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. C'est ce que vous ressentez, vous, Muriel ?
Oui, en plus, moi, j'ai la chance dans mon groupe d'avoir suivi les jeunes qui sont maintenant chez les 14-17 ans. Je les suis, en fait, depuis qu'ils ont 11 ans. Donc, on a progressé ensemble. Je les vois changer, je les vois grandir dans le scoutisme. Et puis, tous les ans, ils ramènent d'autres copains, en fait, qu'ils ont réussi à convaincre en leur disant, franchement, c'est trop bien, viens avec nous. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose qui est très agréable au quotidien, quoi.
Et Louis, vous, du haut de vos 29 ans, qu'est-ce que vous constatez même si voilà, vous êtes quand même un peu plus jeune que Catherine et Muriel, voilà, il y a quand même un gap générationnel entre vous et ceux que vous encadrez.
Bien sûr, et moi j'ai même commencé l'animation quand j'avais 17 ans,
oui.
Et j'ai même envie d'aller plus loin que ce que Muriel disait, que les jeunes nous apprennent encore plus en fait, que ce que nous on peut leur apprendre. Il y a évidemment cette notion, j'allais dire, de sagesse et d'expérience, même si l'âge ne fait pas forcément la sagesse et l'expérience, qu'on leur apporte. On leur apporte ce cadre, en tout cas, je l'espère, épanouissant. Et propice au développement, mais les jeunes, de par leur expérience, de par leur parcours, par leur vie différente, leur énergie différente aussi, on va pas se mentir, nous apprennent énormément, si ce n'est plus que ce qu'on peut leur transmettre.
Et notamment sur l'écologie ?
Bah encore plus sur l'écologie, ouais. où ils sont, quand on disait tout à l'heure, la génération qui veut et qui va faire bouger les choses. Mais aussi sur plein d'autres enjeux. Effectivement, on est sur une émission sur l'écologie, donc on en parle beaucoup, mais on a aussi beaucoup d'actions sociales qu'on fait vivre par le biais du scoutisme. Et cette génération-là est la génération qui va faire bouger les choses.
Sur quoi ? Sur la solidarité, la tolérance ?
Totalement, sur l'isolement, sur l'acceptation, sur la tolérance et tout ça, effectivement, oui, bien sûr.
Vous apprenez donc beaucoup au contact des jeunes. Catherine Fonnet, est-ce que ça vous secoue ? Ça vous remet en question ?
Oui, effectivement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on on essaye de ne pas devenir des vieux blasés, bornés, etc. On est sans arrêt interpellé et obligé de se remettre en question. Et c'est ça qui est intéressant. Et qui garde jeune. Ouais. C'est peut-être un peu caricatural, mais c'est vrai que ça nous permet de comprendre peut-être effectivement mieux la société, c'est d'être un peu bousculé.
Surtout dans l'actualité. Est-ce que ça, le volet politique, c'est quelque chose qui est facilement abordable dans les scouts et guides de France, ou alors c'est pas le lieu ?
Louis. Là, la question est compliquée, mais je vais essayer d'y répondre. On est un mouvement qui, par essence, est pas
politique.
C'est ok, apolitique, oui. Mais qui porte un certain nombre de valeurs. Ces valeurs peuvent se rapprocher plus ou moins de certains bords politiques, mais en tout cas, on essaye effectivement d'avoir cette neutralité politique encore plus auprès des jeunes qui pourraient être facilement influençables d'un côté comme de l'autre. Mais par essence, en fait, on porte certaines valeurs et on y tient, on y croit. Mais en tout cas, non, effectivement, le scoutisme n'est pas forcément, je nuance un petit peu, parce que ça peut être un lieu, en tout cas, d'épanouissement politique, mais n'est pas forcément le lieu pour parler politique.
Ni pour débattre.
Bien sûr.
Ouais. On arrive doucement à la fin de cette émission. Qu'est-ce qui est prévu pour vous, Louis, cet été, avec les scouts ? Est-ce que vous avez prévu un camp, quelque chose ?
Eh ben, nature environnement.
Ouais. Allez, c'est reparti.
Les deux dernières semaines d'août. Exactement, c'est reparti. Donc, je dirige le camp de Lumini sur les deux dernières semaines d'août.
Donc voilà, on accueille comme chaque été à peu près un millier de jeunes entre entre 14 et 17 ans. Voilà, plus des compagnons qui vont être ce qu'on appelle nos équipiers de service, si je puis dire, qui rendent service en tout cas au camp. Mais on accueille aussi et surtout tous les mouvements du scoutisme français. Pas seulement les scouts et guides de France. On est ouvert et encore cette année, on accueille quelques délégations des autres mouvements du scoutisme français.
Et vous, Catherine Fonnet, le programme cet été?
On est plus modeste cette année. On est plus modeste. Bon, on a qu'une seule base, donc on va accueillir des jeunes du 12 juillet au 10 août. Des jeunes qui viennent de Lorient, de la région du bord de Marne, de Vissembourg, de l'Alsace-Bossue et encore des Vendéens. Donc en tout, ils seront à peu près, 80-90. Bon, le terrain, on peut pas être plus grand, on peut pas être plus nombreux. Et je me déplacerai pour les formations, etc. Pour veiller à ce que tout se passe bien. Pour les installations, les désinstallations, les relations avec le maire, etc. Donc, ça va être quelques petits allers-retours entre Strasbourg et Lichtenberg.
Et vous serez ensemble toutes les deux avec Muriel?
Non, moi je ne campe pas sur le terrain, place aux jeunes. Bon, j'y passerai peut-être une ou deux nuits en général, mais pas plus. Je pense qu'on peut, enfin disons, voilà. Pour moi, je me dis toujours, comme dit, j'ai passé l'âge, j'essaye de les former, j'essaye de leur montrer des trucs. Mais ensuite, le cinquième, ils préfèrent, à mon avis, ne pas avoir quelqu'un qui a quasiment l'âge de leur grand-mère. Bon, je veux bien prendre ma guitare et chanter une fois, mais voilà, c'est pas non plus. Je vais pas rester sur le terrain. Donc, Muriel, par contre,
vous allez camper, Muriel, vous.
Elle va camper.
Moi, je vais rester effectivement sur le camp avec mes jeunes. Et en même temps, justement, pour décharger un peu Catherine et puis l'équipe pilote, sur le temps où je serai présente au Lichtenberg, c'est moi qui ferai la coordination du réseau Sentinelle. Donc, tout ce qui est gestion, organisation des missions, savoir qui va faire quoi, quand. Parce qu'il y a aussi, en même temps que nous, il y a la Savoie qui sera là. Il y a un groupe de Warons. Donc...
Vous n'allez pas vous ennuyer tous les trois, on l'entend cet été. Louis, vous allez me gronder parce que j'ai encore vous poser une question apparemment compliquée, mais si vous deviez résumer le scoutisme en un mot... je commence pas avec vous, Louis, allez, comme ça, ça va vous laisser le temps de réfléchir. Muriel, allez-y Muriel.
Un mot, d'accord.
Moi, si vous voulez, je l'ai.
Allez, Louis, allez-y.
Je dirais éducation. C'est un peu le choix de facilité, mais en fait, on a beaucoup parlé de ce qui faisait l'aspect ludique du scoutisme, et non pas que l'éducation n'est pas ludique, mais on reste un mouvement d'éducation populaire, d'éducation des jeunes, et nos trois camps, nos trois dispositifs. Sont en fait principalement et majoritairement une manière d'éduquer les jeunes à l'environnement, à la préservation de la nature.
Voilà, éducation. Catherine.
Moi, j'en aurais mis deux.
Ah là.
Être prêt. Être prêt. C'est vrai qu'en fait, être prêt à tout, justement, à être utile. Et quand Louis parlait d'éducation, Baden-Powell disait exactement ça, former les citoyens de demain.
Voilà, être prêt. Et vous, Muriel?
Moi, je mettrais vraiment le truc solidarité.
Allez,
parce que, étant donné qu'on est quand même, on doit être solidaire, c'est une valeur fondamentale des scouts, solidaire envers les autres, envers la nature, envers solidarité dans le sens large.
Eh bien voilà, éducation, être prêt et solidarité, voilà pour résumer votre engagement. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette émission. C'était très agréable de discuter avec vous. Louis Ballet, je rappelle que vous allez donc co-diriger ce camp nature en environnement de protection des feux de forêt dans un quartier de Marseille. Catherine Fonnet, vous êtes à l'origine du projet Sentinelle Feux de Forêt en Alsace. Et Muriel Holzheimer, cheftaine pionnier Caravelle, également engagée sur ces questions de protection des feux en Alsace. Rendez-vous sur le site des Scouts et Guides de France pour en savoir plus. C'est ce qu'il y a de plus simple. sgdf.fr. L'émission est presque terminée, mais on va accueillir tout de suite notre chroniqueur.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et alors que l'écologie politique recule dans les urnes au lendemain des élections européennes, zoom sur l'action écologique remarquable de la Fabrique des Transitions qui accompagne les collectivités dans leur démarche de transition écologique. On en parle avec Julien Deséchos du magazine Sans Transition. Bonjour Julien.
Bonjour Melchior.
Alors qu'est-ce que c'est cette Fabrique des Transitions ?
Il s'agit d'une alliance de 400 acteurs publics et privés issus du travail de collectivités pilotes sur les questions de transition. Cette alliance vient de se déployer en mai dernier en Occitanie afin d'accompagner 8 territoires et le sera dans 3 autres régions dans les prochains mois. Il s'agit de faire émerger des dynamiques concrètes en faveur de la transition écologique autour des thématiques clés, mobilité, alimentation, habitat, pour co-construire une forme de résilience territoriale, autrement dit la capacité pour ces territoires à amortir les chocs futurs, dont celui du changement climatique. Ainsi, les collectivités sont ici les véritables pilotes des transitions, c'est elles qui ont la main et de nombreuses compétences, plan climat, mobilité, réduction des déchets, pour mener à bien ces enjeux. Or, elles ne sont pas toujours en capacité de les mettre en mouvement, c'est dans ce contexte que la Fabrique des Transitions intervient.
Et de quelle manière se déroule cet accompagnement singulier ?
Il s'agit avant tout d'une logique d'échange et de co-construction, je l'ai dit. Grâce à son expertise de terrain, cette structure permet aux projets de transition de se concrétiser en agrégeant les compétences et expériences du réseau d'acteurs qui composent l'alliance évoquée. Objectif ? Mettre à disposition des territoires cette expertise commune pour qu'ils puissent apprendre et eux aussi transmettre. Et c'est là l'originalité, afin de structurer une communauté apprenante. Autrement dit, celles et ceux qui réussissent partagent leurs méthodologies, leurs astuces, leurs réseaux aux autres pour leur permettre, grâce à la coopération orchestrée par la Fabrique, d'accélérer leur démarche. Cette manière d'accompagner les transitions sort du modèle classique dans lequel les acteurs publics délèguent des travaux à des bureaux d'études pour s'adapter aux réalités concrètes des territoires.
Alors, quelles collectivités sont concernées, Julien ?
L'ensemble des collectivités, Melchior, des métropoles aux villages, en passant par les cités de taille intermédiaire. Cette échelle est particulièrement importante. J'entends l'échelle des petits territoires, car la transition s'exprime souvent de manière plus rapide et efficace, ce qui finit par interpeller les plus grandes collectivités, les régions, voire l'échelle nationale. Ainsi, la transition se joue, certes, à toutes les GCL, comme en Occitanie, puisque les 8 territoires suivis, on a retrouvé cette diversité avec la Barre des Cévennes, la communauté d'agglomération du Sicoval, du Frontonnet, du Vigan, Montpellier Métropole, etc. En somme, en alliant apport de connaissances, diagnostics sensibles, échanges entre pairs et cadrage, ces accompagnement collectif vise à favoriser l'émergence de dynamiques de transition à l'échelle régionale et interrégionale.
Et c'était important d'en parler. Merci Julien Deséchos. Vous pouvez suivre l'évolution de cet accompagnement en lisant le site sans-transition-magazine.info. Merci encore à Louis Ballet, Catherine Follet, Muriel Holzhammer d'avoir participé à cette émission. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame de Strasbourg, à Hugo, à Pierre qui ont permis la réalisation ce matin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne journée. On va se retrouver demain. On va parler des Jeux Olympiques qui arrivent. Hein. Ouh là là, ça va arriver très très vite. Est-ce qu'on peut dire que les Jeux Olympiques sont un moment sacré entre le relais de la flamme, les grandes cérémonies, les podiums, les célébrations ? Est-ce que tous ces moments qui nous rassemblent sont aussi une sorte de religion ? Bonne question. On va ouvrir le débat demain, dès 9h, avec bien sûr vos témoignages. À demain.